Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur Philippe Lémonier. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Lémonier, vous êtes ici pour nous annoncer une exposition prochainement à la librairie Mosaïque qui débutera mardi 5 août, une exposition de photographie. Alors vous nous expliquerez d'ailleurs cette exposition a-t-elle un titre ?
Elle s'appelle « Secret de la Vande ». Et effectivement, il y a quelques éléments à donner autour de cette exposition.
Alors, ce désir de traiter de la lavande par la photographie, mais également vous éditez dans la collection des ficelles, aux éditions du Pas de l'Homme, un petit ouvrage intitulé « Une brève histoire de la lavande ». Est-ce que c'est un pendant de cette exposition ?
Alors, c'est tout un travail qui a été fait au fur et à mesure du temps. Pas une seule fois. Il y a eu d'abord un livre qui était épuisé, qui était sur les routes de la lavande, c'est-à-dire toutes les routes qui vont de Crest jusqu'à Grasse et de Digne jusqu'à Avignon, où on cultive la lavande, le lavandin. Voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, il y a eu le travail de photographie pendant 18 mois sur deux saisons qui a été exposé d'abord en grand format sur le quai de Marseille devant la mairie dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, et une exposition qui a tourné 5 ans en Provence. Et puis, il y a eu, dans le cadre des éditions Le Pas de l'Homme, exceptionnellement, c'est un écrit que j'ai commis, à la demande d'Alain Aubanel, le président des lavandiculteurs, qui m'a dit bon, on aurait besoin d'un petit bouquin qui, au-delà de nos flyers, résume bien toute l'histoire, enfin, résume, puisque c'est une brève histoire d'avant, l'histoire de la lavande dans nos régions, enfin, sur le sud-est de la France, la partie sud. La partie basse du sud-est, sachant qu'aujourd'hui, à titre d'information, il y a plein de pays qui se sont mis à produire la lavande, mais c'est endémique de la Provence.
Alors, ce qu'il ressort aussi, vous étiez venu chez nous pour nous parler d'un ouvrage consacré à Saint-Jacques de Compostelle, d'ailleurs, que vous avez fait rééditer pour épuisement de la première édition, Saint-Jacques de Compostelle pour les nuls, hein, c'est ça ?
Alors, c'est Compostelle pour les nuls, c'est le titre, qui a été réactualisé au mois de janvier, qui vient d'être paru, qui a peut-être 7-8 ans, j'ai un petit peu oublié, où il y a eu plusieurs retirages, mais il n'y avait pas eu de réactualisation. Et c'est vrai qu'il y a ça. Alors, bien sûr, on n'a pas réactualisé, puisque cet ouvrage, je l'ai fait avec un ami qui est historien de l'art, qui est médiéviste, qui connaît parfaitement les chemins de Compostelle, que c'est lui qui a mis les premiers chemins de Compostelle en route en 1970. Mais donc, c'est pas d'aujourd'hui. Mais on n'avait pas réactualisé. Alors, on n'a pas tout réactualisé. L'histoire par elle-même n'a pas changé. Mais il y avait quand même un certain nombre de choses qui ont bougé Compostelle. Entre, je dirais, les 80 000 personnes, les deux personnes qui faisaient Compostelle en 70, les 80 000 en 2000 et les 500 000 l'année dernière. Donc, c'est plus les mêmes motivations, c'est plus la même physionomie de personnages. Les choses ont beaucoup changé. Juste à titre d'exemple, il y a plus de femmes maintenant que d'hommes. Et puis. C'était après les Espagnols qui sont à 45% des gens qui vont à Compostelle, c'était les Allemands, enfin les Européens, ce sont les Américains, le deuxième groupe. Voilà, donc il y avait tout un travail pour remettre à jour la deuxième partie qui était une partie plutôt d'actualité.
Une exposition photographique, donc
Alors, une exposition photographique, en fait, bon, vous le savez, je travaille à peu près pas toujours les mêmes sujets, parce que chaque chemin que j'ai pu faire tant en termes de politique, de théologie, de paysage, de légende, est bien différent. Mais j'utilise mes modes de pression, modestes modes de pression que j'ai, c'est-à-dire j'ai l'écriture, j'ai la photographie depuis très longtemps, je suis ethnophotographe, et j'ai le parler, c'est-à-dire la conférence. Voilà.
Saint-Jacques de Compostelle, c'est connu pour son pèlerinage, donc oui. ce déplacement à pied. D'ailleurs, vous avez traité à un moment aussi les Huguenots. Il y a cet aspect aussi de la photographie à travers ces champs de lavande ou d'autres paysages. La marche est aussi une pratique. Pour vous, c'est important, cette notion de marche. C'est se remettre aussi à la réalité terrestre.
Pour moi, c'est primordial. D'abord, parce que je marche depuis que je suis gamin, depuis 1964, dans de grands parcours. Et puis, me semble-t-il, au risque de me tromper, pour moi, ce qui fonde notre humanité, c'est la bipédie. Je pense que tant que l'homme continuera de marcher, et contrairement un peu à tout ce qu'on voit médiatiquement, il marche de moins en moins. Vous voyez des vélos, vous voyez des patinettes, vous voyez des voitures, des 4x4. Bon, il y a toujours maintenant des escalateurs. Je pense que ce qui fonde notre humanité depuis 2 millions d'années, au moins, c'est vraiment la bipédie. Et pour moi, le fait de marcher, c'est vraiment... d'aller à la rencontre de l'autre, puisque vous savez, mon travail se situe en termes que ce soit en termes de photographie ou en termes d'écriture, sur 4 thèmes qui sont l'altérité, qui sont l'hospitalité, qui sont la rencontre et qui sont la notion de l'étranger. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour aller valablement vers l'autre, le rencontrer, le connaître, que d'y aller à pied. Voilà. Et puis après, il y a le plaisir physique qui joue. Et puis une dernière, enfin pas une dernière chose, mais on peut rajouter sans faire une conférence sur la marche, il y a quand même le fait de marcher oblige au dépouillement. Vous ne pouvez pas emmener 50, 60 kilos. Et donc ce dépouillement qui est d'abord physique va avoir, je l'espère, une conséquence sur le dépouillement intellectuel, de revenir à des choses plus essentielles. Je ne demande pas, ce que tout le monde n'ait pas de télévision, mais je n'ai pas de télévision, non pas par principe, mais parce que je n'utilise pas, je n'ai pas le temps. Et ça, parce que j'ai souvent vécu dehors, j'ai souvent vécu en voyage, et que ça ne me semble pas une nécessité. Et je pense que dans l'état actuel de choses, ça m'allège quand même, ça me retire un poids.
La marche est également aussi un moyen d'utiliser ses 5 sens.
Absolument. Alors, c'est un moyen d'utiliser ses 5 sens. C'est vrai, c'est une très bonne constatation, mais c'est plus que ça. C'est un moyen d'exacerber et d'accentuer ses 5 sens. Lorsqu'on marche très longtemps, et notamment en forêt, on a les 5 sens qui sont en alerte et qui se développent au fur et à mesure du temps, surtout quand on part pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. On entend beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux, on sent les choses. Voilà. Et jusqu'à, bien sûr, le plaisir de toucher l'écorce, le bois, une pierre, mais aussi, on a ce 6e sens qui est l'instinct, que l'on ressent fortement, l'instinct non seulement de savoir s'il y a un animal, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelqu'un qui arrive, mais aussi l'instinct du chemin. On a quelque part, on sait quand on arrive, au risque de se tromper, bien sûr, on arrive à une patte d'oie. Intuitivement, on sait, quand on est déjà depuis plusieurs semaines sur le chemin, on sait lequel il faut prendre. Au risque de se tromper, c'est là l'aventure non seulement commence, mais elle se poursuit.
Ces 5 sens sollicités, mettre en éveil, mis en éveil justement par exemple ces découvertes de champs de lavande, c'est aussi beaucoup d'émotions pour vous.
Alors c'est beaucoup d'émotions parce qu'il y a des hommes derrière. Il faut pas oublier ça parce que c'est quand même c'est ce qui m'intéresse. Il y a que l'humanité qui m'intéresse. Le reste c'est je dirais tout existe pour et par l'homme. Le meilleur, et puis des fois le plus mauvais, mais c'est l'homme qui est important. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais dans cette histoire de changement climatique et autres, c'est pas le climat, c'est pas la terre, c'est pas le climat, excusez-moi, c'est pas la terre qu'il faut sauver, c'est l'homme. La Terre se sauvera toujours un jour ou l'autre. Il y a eu des espèces. Et l'homme, et je pense aux gens qui sont dans des pays, soit sur des îles qui sont en train de prendre l'eau, où le niveau d'eau est en train de monter, soit des pays comme l'Afrique où il n'y a pas d'eau. Et puis même bientôt chez nous, en Europe, enfin chez nous, on peut retirer le chez nous, je dirais, mais bientôt en Europe, où il y aura aussi des conséquences importantes. Voilà. Mais c'est pour moi les conséquences vers l'homme. Et là, c'est l'homme qui m'intéresse à travers mes voyages, c'est la rencontre. Et derrière cette lavande, qui est un produit vraiment de la Provence, c'est un produit des pays rudes, puisque c'est le pays où on a du mouton, c'est le pays où on a de la vigne, c'est le pays où on a de la lavande, c'est des pays secs, c'est des pays rudes. Et donc, il y a aussi une population rude, notamment autour de la lavande actuellement, où il y a un certain nombre de problèmes qui existent. Il y a eu la citadelle, la maladie de la lavande, qui a beaucoup dépéri la lavande et qui fait qu'aujourd'hui, les plants qui pouvaient durer 15 ou 20 ans ne durent plus du tout de la même façon. Il faut déplanter. Certains déplantent et puis ne replantent pas. Il y a le problème... Alors, je parlerai sous le contrôle d'un absent, mais d'Alain Aubanel, le président des lavandiculteurs. Il y a le Sénat qui voudrait mettre une tête de mort sur la lavande. Donc ça, ils sont en train de lutter pour ne pas l'avoir. Enfin, sur l'essence de lavande, excusez-moi. Et puis, il y a de positivement, je ne sais pas où ils en sont non plus, mais la lavande devrait être classée à l'UNESCO. Voilà. Donc il y a plein de choses autour. Et puis, il y a quand même plein de métiers autour de cette lavande hein, qui va encore, je le dis, de craie à Grasse jusqu'au parfum et de Digne, qui est l'ancienne capitale de la lavande jusqu'à Avignon.
Voilà, Alain Bonnel, je l'avais reçu il y a environ 2 ans, justement, avec cette classification par des normes européennes de cette lavande dans le tableau d'éléments chimiques.
Voilà, vous êtes plus précis que moi.
Oui, absolument. Il y a une émission qui existe cette interview.
Très bien, voilà. Mais je pense que ça mérite d'être écouté parce que la lavande fait partie de ce paysage, mais aussi de la vie de cette région et c'est vrai qu'elle est plus ou moins attaquée par ces dispositions à venir.
Vous citez sur le document de promotion de cette brève histoire de la lavande, cet auteur Jean Giono, pour vous, c'était un éclairage sur une certaine vision de la nature.
Giono, bon, il peut être contesté par certains, mais je pense que Giono, c'est un personnage qui est important par rapport à la nature. D'abord, quand il va faire monter sur le Cantadour avec des amis, des poètes, qui va aller sur ce pays des bories et des moutons, où il décide d'avoir une réflexion intellectuelle, poétique, avec des amis dans la nature. Et puis aussi, bon, c'est une référence qui est un peu plus courte, mais donc la forêt de Giono qui est à Châtillon, suite à un de ses romans, j'ai oublié le titre, mais suite à un des romans qu'il a pu écrire, qui se déroule, dont le personnage principal est à Châtillon, en Diois. Et quant à Giono, après, toute sa vie, récemment, je n'ai pas le titre en tête, mais récemment a été publié un livre intéressant de Giono, je pense qu'il n'y a pas 2 ans, qui raconte un voyage qu'il a fait d'environ 170 kilomètres dans le Diois, au fin de préparer l'ouvrage « Les grands chemins ». Et ce manuscrit a une histoire assez extraordinaire. C'est que Giono a été arrêté. Alors, il a été arrêté une fois parce qu'il il était pacifiste. Et puis, il a été contesté à l'après-la-guerre une fois parce qu'il s'était quand même engagé. Bon, bref, ceci étant, quand il a été arrêté, il a dû justifier son travail en laissant un manuscrit à Grenoble, là où il était interrogé. On n'a jamais entendu parler de ça. Et il y a 2 ans, quelqu'un travaillait tout à fait par hasard sur des archives et découvre ce texte, persuadé que c'était un brouillon d'un texte qui avait été publié. Et il s'est avéré que c'était un inédit. Et pour notre région, de suivre Giono en 1930, je pense qu'il a écrit en 39, en 35, 36, enfin, dans les années 30, dans nos régions, y compris Châtillon, y compris la Motte-Chalancon, c'est un véritable voyage. Et c'est disponible en librairie.
Je crois que cette anecdote sur ce livre disparu a été mentionnée dernièrement sur France Culture. Bon. Il y avait une émission là-dessus, justement.
D'accord, ouais, je suis content parce que je veux dire que quand on connaît le Diwa et quand on a pratiqué le Diwa à pied comme je l'ai fait, tout d'un coup on tombe sur un quelqu'un qui a écrit ça donc il y a 80 ans, avec, bien sûr, ce n'est pas littéraire, c'est à la fois des notes, mais on y lit ce qu'on y a vécu et on y lit également ce qui a disparu.
L'exposition de photographie, c'est en quelque sorte une prise de notes de ce pèlerinage, en quelque sorte.
Alors c'est pas une prise de notes. C'est au-delà du travail d'écrivain qui est un peu connu modestement, j'ai quand même un travail depuis 20 ans, depuis 25 ans, d'ethnophotographe. C'est-à-dire que je me suis intéressé à des populations. Il s'avère que ce ne sont pas des populations africaines ou asiatiques, ce sont des populations en France et notamment des populations autour de métiers. La première des grandes, je ne parle que des grandes expositions que j'ai pu faire, ça a été sur la vie d'un livre, qui racontait en 50 tirages, 2 ans de travail, qui racontait la chaîne du livre. D'une part, la chaîne du livre qu'on appelle, bon, qui est l'imprimerie, mais pas seulement, toute la chaîne du livre, des libraires, des écrivains, des lecteurs, etc., qui avait été commandée par le Conseil général de la Seine-et-Marne. Donc, ensuite, j'avais un autre grand travail qui a été fait, et ce qui m'a amené dans cette région d'ailleurs, c'est que pour la préfecture, le conseil général et la communauté de communes de Bourg-de-Péage, de Romans-Bourg-de-Péage, j'ai travaillé 2 ans sur les métiers du cuir et de la chaussure. Donc, le but, c'était de répertorier ce qui restait comme métier, alors que là, on disait qu'il n'y a plus rien, mais il restait encore beaucoup de métiers, entre les gens qui faisaient des lacets, les gens qui faisaient des formes, les gens qui faisaient des talons, les gens qui faisaient, bien sûr, des chaussures. Voilà. Et donc, c'était un bilan photographique de ce qui pouvait rester au moment, malheureusement, du dépôt de bilan de Jourdan. Voilà. Et puis, il y a la lavande, qui n'est pas le troisième, mais quatrième ou cinquième, mais je préfère parler que des choses un petit peu notables. Et la lavande, pour lequel il s'agissait de valoriser donc ce patrimoine, mais pas seulement le patrimoine floral, le patrimoine humain qui travaille autour de ça, avec on a des traces d'utilisation de la lavande depuis l'Antiquité. On a des traces d'utilisation de la lavande dans notre vocabulaire. Alors je n'ai pas sous les yeux tous les mots, mais se laver, lavabo, la lavette, sont des mots qui viennent du mot lavande. Lavandière, voilà, donc sont des mots qui... Donc c'est des mots qu'on a tous les jours, mais dont on a oublié un petit peu l'origine. Donc ça aussi, c'était intéressant de replonger un petit peu dans ces champs de lavande ou de lavandin, mais en ayant derrière tout un historique.
Il y a ces photographies donc à découvrir à partir du 5 août. Au nombre de combien d'images ?
Alors là, sur l'exposition, on faisait une cinquantaine. Bon, d'une part, je n'ai pas l'exposition originale puisqu'elle a tourné, elle n'était plus en très bon état. Et d'autre part, là où je suis accueilli à la librairie Mosaïque, dans le local qui est destiné maintenant à exposer, on ne pourrait pas mettre 50. Donc j'ai proposé 17 photos sélectionnées qui racontent du moment où on est en train de couper jusqu'au moment où on est en train de sentir dans le flacon donc toute la chaîne qui existe, donc la coupe, ensuite le travail de distillation, ensuite le travail de fleurs mondées. Ces fleurs mondées sont ces petits coussins, enfin, on prend les calices et nos grands-mères faisaient des petits coussins qu'elles mettaient dans les armoires avec. Mais aujourd'hui, la fleur mondée se développe pas mal autour de pas mal de réalisations, notamment de plus en plus la fleur de lavande remplace le riz dans les mariages. Et c'est plus, je vais utiliser un mot un peu à la mode, allons-y, plus écologique que de laisser traîner le riz. Et puis, c'est odorant. Il y a quelque chose, il y a un air de fête qui est autour de la lavande. Et d'ailleurs, il y a des fêtes de la lavande qui sont très importantes dans notre région. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que je les ai pas, j'ai pas révisé, mais il y a celle de Sceaux, il y a celle de Valensole, notamment, qui sont des grandes fêtes. Valensole, par exemple, qui, alors, je ne sais pas cette année ou l'année dernière, mais il y a encore 3-4 ans, attirait jusqu'à 20 000 personnes, mais beaucoup de gens d'Asie. Parce que et d'ailleurs, il y a une photo qui symbolise ça. Les Asiatiques viennent en France, soit pour se marier ou se remarier dans la lavande, ou tout au moins pour venir faire une photo dans la lavande. Ce qui est assez extraordinaire. Imaginez qu'on vient de Corée pour se plonger ils se plongent littéralement dans la lavande et se prendre en photographie dans la lavande. Voilà pour l'anecdote.
Ces photographies seraient-elles aussi l'illustration d'un ouvrage sur cette...
Non, alors il faut dire que les photographies, il faut que chacun sache et ne soit pas déçu d'emblée, même s'ils ne le verront pas pour la plupart, c'est en noir et blanc. Alors quand je dis qu'ils ne le verront pas, c'est qu'on a une telle profusion d'images de la lavande en millions de photos vues à travers sa vie, et l'espérance, je l'ai menée, les gens ne voient pas que c'est en noir et blanc. Ils voient la couleur, ils voient quand même la couleur. Mais ce qui était important pour moi de travailler en noir et blanc, même si au départ, les commanditaires ont dit bah « Non, noir et blanc, lavande. » J'ai dit « Mais lavande, tout le monde connaît la couleur. » Par contre, la couleur en photographie est une information, mais une information qui peut faire ce qu'on appelle des fois du bruit. Et là, ce qui était important pour moi et pour mon commanditaire, c'était de voir le geste. Le geste qui est fait autour de la lavande, que ce soit celui de l'agriculteur, que ce soit celui qui coupe à la main, que ce soit celui qui fait la distillation, etc. C'était le plus important. Et là, il ne fallait pas qu'un t-shirt rouge, un t-shirt jaune, un t-shirt bleu vienne trahir le geste.
Il y a cette collection donc, des ficelles, hein, vous étiez venu nous en parler. Il y a combien d'éditions dans cette collection ?
Alors, les ficelles sont nées pendant les Covid. C'est à la fois, pour moi, c'était un prolongement, ces éditions qui restent très, très modestes. C'est que, bon, je pouvais résumer plusieurs choses dans cette petite société d'édition. D'abord, un passé de chef d'entreprise d'il y a maintenant plus de 25 ans, mais j'ai quand même dirigé des entreprises. Ça, c'était une première chose. Ensuite, le fait d'avoir redressé des éditeurs. Ensuite, le fait donc de connaître assez bien l'édition. Ensuite, la passion du livre depuis, je dirais, pas si jeune que ça, mais depuis 15-16 ans, j'avais une passion pour le livre, pour le papier, pour les vieux livres, pour les histoires autour des livres. Et puis, aussi, sans oublier quand même ma passion pour l'écriture. J'ai publié une quinzaine de livres. Voilà. Et au moment du Covid, avant le Covid, puisque je l'ai lancé avant, j'avais envie depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, d'avoir un mode d'expression autre que ceux dont j'ai parlé, photos, écriture et conférences. Et donc, c'est là que j'ai créé les éditions Le Pas de l'Homme, qui publie des ficelles, c'est-à-dire des petits livres au format plié, une fois fermé, A6, mais qui sont en relation avec tout ce que je fais, puisque ce sont des livres de colporteurs. On appelait ça au 18e et 19e siècle des ficelles, parce qu'il y avait une petite ficelle qui permettait de relier les pages et de coller sur la balle du colporteur. Alors, c'était à l'époque sur du mauvais papier, ce qui n'est pas vrai. Les ficelles sont, je pense, assez étudiées, tant en termes de papier, tant en termes de papier qu'en termes d'impression. Et puis, alors, il y avait des petites poésies, des conseils pour la cuisine, des conseils pour le jardin, des prières. Enfin, voilà. Et donc, ce côté nomade du colporteur, qui est quand même un personnage important, surtout 18-19e siècle, pour véhiculer des premières idées, et puis aussi de véhiculer le fait que les gens commençaient à savoir un peu lire, donc c'était un petit peu important. Voilà pourquoi j'ai créé les ficelles. Et puis j'avais envie, au-delà de ma propre écriture, de travailler d'autres écritures, d'autres auteurs qui écrivent différemment, qui écrivent sur d'autres sujets. Même si on peut, je ne sais pas si on peut voir un fil conducteur dans chacune des ficelles, mais il y a quand même dans les 30 ficelles qui ont été publiées jusqu'en décembre l'année dernière, donc pendant 4 ans, entre presque 5 ans, entre mars 2020 et décembre 2024, il y a quand même un lien qui les relie.
Vos textes, ou du moins vos écrits, sont le résultat de ces voyages, de ces perceptions aussi, de cette nature, je ne sais pas de quand datent les premiers.
Alors,
mais ma question c'est de savoir.
C'est toujours difficile de définir son écriture. Les autres la définissent en général mieux, sont plus objectifs que l'auteur. Mais c'est la résultante de la rencontre. C'est aller à la rencontre des autres, c'est aussi à la rencontre d'histoire, parce que j'essaie d'expliquer, j'ai beaucoup travaillé et fait de conférences et écrit sur l'histoire de la marche et l'histoire du voyage à pied. Et il faut noter que le voyage à pied d'agrément, ce n'a que 40 ans, alors que le voyage au sens général, ça a 2 millions d'années où on voyage à pied. Et que si on a la chance en Europe de choisir, c'est un luxe d'aller marcher à pied, c'est de l'agrément, ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a encore des femmes qui font 5 à 10 km pour ramener 5 litres d'eau. Qu'en Asie, il y a des gens qui sont obligés, dans certaines régions, de se déplacer pendant des jours ou tout au moins des heures pour aller à l'école, notamment, je pense, dans les montagnes iraniennes, entre autres, il n'y a pas que là. Donc, ça, je n'ai pas voulu parler que de l'agrément, d'autant plus que ce n'était pas le truc principal qui m'intéresse. Quand je parle de Compostelle, c'est plus au niveau de l'histoire fondamentale de pendant 1000 ans, des légendes de Saint-Jacques, et puis de la façon dont vivaient les pèlerins. C'était ça. Après, j'ai beaucoup été intéressé par d'autres aventures qui ne sont pas nécessairement des aventures des plus joyeuses. Je pense au pas des Huguenots, c'est-à-dire ce chemin d'exil des protestants qui lorsqu'ils étaient après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, et puis lorsqu'ils sont chassés, ils n'avaient pas 36 solutions. Soit ils se convertissaient, soit ils partaient sans rien, et ils étaient quand même pourchassés par les dragons et par certains curés catholiques qui n'hésitaient pas à monter des milices la nuit, notamment dans le Gévaudan, pour massacrer les protestants. Et puis, si vous avez été pasteur, au mieux, vous avez le droit aux galères, au pire, vous étiez pendu. Et ensuite, les enfants pour lesquels les parents avaient refusé de se convertir étaient enlevés, mis dans des écoles catholiques, enfin dans des couvents catholiques pour être excusez-moi du terme, entre guillemets, ce que je ne crois pas, mais rééduqués. Après, il y a autour de ce chemin qu'on comprend, qui a été tracé entre le Poitlaval dans notre région jusqu'au milieu de la Hesse, à Luisendorf, il y a on marche, il y a des beaux paysages. Moi, j'ai fait le voyage uniquement les 500 km francophones qui mènent à Lausanne, j'ai repris. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ces gens qui étaient persécutés par les dragons, et de se dire que l'expérience que j'ai voulu vivre avec mon sac à dos, c'est effectivement, il fallait que ces gens soient pas trop loin de la civilisation, entre guillemets, parce qu'ils allaient se nourrir. Et puis, il fallait avoir de l'information. Où est-ce que je vais, comment, où j'en suis, voilà. Mais il fallait aussi qu'ils vivent cachés, parce qu'ils savaient très bien qu'ils seraient massacrés. Il y a eu vraiment une haine importante contre le protestantisme. À noter, puisqu'on parle, nous sommes à Die, c'est que Die a été une des plus grandes académies européennes protestantes. Peut-être que des émissions ont été faites autour de ça. Important que la ville de Die, après la publication en 1517 des revendications de voilà, le nom m'échappe, de Luther, prédication de Luther. Quelques années après, l'évêque de Die est revenu de Paris avec son staff. Ils ont réuni les 13 chefs de clan ici et ils ont décidé de passer armes et bagages au protestantisme. Alors, il y a ceux qui sont passés réellement parce qu'ils pensaient qu'effectivement, ils étaient d'accord sur le fait que vendre des parts de paradis pour compenser des péchés, il fallait arrêter et que l'opulence de Rome, il fallait diminuer. Puis bon, ceux qui n'y pensaient pas, mais qui se sont convertis de façade. Et puis, on a vécu quelque chose qui n'existe pas en Europe, grâce à Henri IV. Je ne sais pas si c'était un bon roi ou pas, qui était Henri III de Navarre protestant, qui est devenu Henri IV catholique. La fameuse citation « Mon royaume, Paris vaut bien une masse ». Voilà. Et pour la première fois, dans un pays, il y avait deux religions. Parce que la règle, et on peut le constater un peu moins maintenant, mais dans toute l'histoire, c'est la religion du prince et la religion du peuple. Et là, et Louis XIV, sous la pression de certains de ses ministres ou de beaucoup de gens jaloux en province, a finalement... il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, et là, ça a été la persécution. Mais il y a des choses que Michelet raconte que je ne voudrais même pas dire à la radio des exactions qui étaient faites. Voilà.
Je reviens un peu sur cette notion de marche. Oui. Est-ce que vous avez pratiqué aussi en nocturne?
Ah oui, ça, j'adore marcher la nuit, et notamment en forêt. Ça, c'est extraordinaire.
Ce sont d'autres couleurs.
Ah, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est pas. Je dirais que la marche nocturne, je n'ai pas nécessairement fait en voyage, parce que dans le voyage, il faut quand même être après. On est dans des contrées. Quand on part plusieurs semaines, plusieurs mois, on est dans des contrées qu'on connaît pas très bien, on sait pas très bien. Donc, on peut marcher un peu de nuit, mais enfin très peu. Par contre, pour le plaisir, notamment à l'automne, pour aller écouter le brame. C'est extraordinaire de marcher là. Là, il y a quelque chose qui se passe. On est dans un monde qu'on connaît quand on l'a fait, mais qu'on ne connaît pas. Marcher de nuit, sans lumière. Alors, je vais juste parler de ça parce que c'est un truc que les gens ne comprennent pas. La vue de l'homme est à la même que la vue du chat, avec une différence fondamentale, c'est qu'il faut 20 minutes pour s'adapter. Mais on voit très bien dans la forêt. Il faut vraiment une nuit d'encre sans lune pour ne pas voir. On voit, mais on ne voit pas si vous avez des gens, soit en face, soit avec vous, qui allument des lampes. Parce que c'est pas possible. Et j'essaye de dire aux gens, attendez 2 minutes. Attendez, vous allez voir. Et vous allez voir vraiment la forêt. Parce que là, lorsqu'on éclaire, on ne voit jamais que dans un rayon de quelques mètres. Lorsqu'on coupe et qu'on attend un tout petit peu, on voit vraiment dans la longueur, notamment quand il y a des très grandes allées, c'est magnifique. Non, c'est qu'il y a quelque chose de magique dans la marche de nuit, et une marche tranquille, on est les mains dans les poches, on a juste un petit sac à dos, si on a un petit faim ou un verre d'eau, mais ça, c'est assez sympa.
Il y a la vision, donc l'écoute aussi, perçoit-elle?
Oui, c'est vraiment à la fois les oreilles, le nez, et puis l'instinct qui va jouer. Et puis, il y a quand même, je ne sais pas si les gens, ceux qui l'ont fait, savent de quoi je parle. Et donc, mais ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est d'écouter le brame. C'est-à-dire que là, on est plongé dans ce qui est vraiment, et je vais dire volontairement le mot, notre humanité. Parce que, comment je vais le dire de façon simple, nous sommes en théorie dans la nature, pas au-dessus de la nature. Et ce côté sauvage, ce côté fort, ce côté qui est immémorial, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Je vous rejoins juste sur cet aspect de sauvage. Oui. La racine, on peut parler de sauvegarde, d'être sauf aussi. Est-ce que cet aspect-là, moi, c'est ce que je rapprocherais. Hein.
Ah non, mais je suis assez d'accord. Là, pour moi, je pense que autant que faire se peut, hein, je ne vis pas à la bougie, hein, mais d'être le plus naturel possible et d'être le plus près d'action naturelle, pour moi, ça me semble évident. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir roulé en voiture, de prendre le train. L'avion, plus maintenant, mais j'ai pris l'avion. Bon, voilà, de trucs. Mais je suis toujours revenu, enfin, dans ma vie, me semble-t-il, dans mon alimentation, dans mon habillement, dans, d'essayer d'être le plus naturel possible, le plus proche. Alors, c'est difficile à dire. Si je dis le plus proche de la nature, je ne veux pas que certains pensent que je suis un homme de la préhistoire. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que j'ai trouvé le mot. C'est à la fois le dépouillement et l'authenticité. Ça me semble essentiel.
En 2020, vous avez fondé donc cette édition, maison d'édition Le Pas de l'Homme. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Oh, ça reste de micro-édition qui n'a pas de dette et qui n'a pas d'argent. Voilà, et que je vais quand même continuer parce que c'est passionnant. Lorsque on refait un petit peu l'histoire autour... Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes autour de l'édition. Je suis le premier à le déplorer tant en tant qu'écrivain qu'en tant qu'être humain. Je veux dire que c'est vraiment... Il paraît 2000 livres par semaine, 100 000 livres par an nouveaux, 460 millions de tirages, dont un tiers qui va à la benne. Bon, il y a plein de choses. Et puis, très honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se publient qui n'ont... Oh, enfin, c'est un jugement de valeur, je le reconnais, mais qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Mais lorsqu'on lit un petit peu l'histoire du livre et de l'imprimerie, et qu'on se rappelle qu'après la naissance de l'imprimerie par Gutenberg, enfin, il n'a pas inventé l'imprimerie, il a inventé le caractère mobile, on a pendant très longtemps brûlé les éditeurs, brûlé les imprimeurs, les éditeurs, parce qu'ils voulaient faire connaître aux autres, ne serait-ce que les évangiles, traduit en français, et l'Église brûlait. Il fallait que ça reste en latin pour que le peuple reste ignorant et qu'il garde le pouvoir. Bon, et c'est un athée qui vous dit ça, qui a travaillé sur des chemins religieux, puisque si je peux citer un autre exemple, si vous le permettez.
Je voulais reposer une question justement à propos de ça.
Oui, un autre exemple, puisqu'on a parlé du pas de Huno, mais j'ai également repris, toujours dans les chemins historiques, repris le chemin de conversion d'Ignace de Loyola, à pied, 700 km. Où j'ai revécu à travers ce voyage et à travers, bien sûr, les lectures et l'écriture du livre, où j'ai revécu l'histoire de cet homme qui a fondé la Compagnie de Jésus et qui, en 1520, de petit bretteur qui culbutait les chambrières dans le palais du roi, deviendra christique et deviendra le fondateur de la... Après toute une aventure, et notamment... Après 700 km à pied qu'il a fait blessé, et j'ai refait ces 700 km pour Albin Michel. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe. On est sur les traces de quelqu'un. Même si c'est 5 siècles avant, on comprend là où il est passé, notamment quand on traverse toute la montagne basque. Voilà, c'est aussi une compréhension de l'humanité, même si je ne jugerai pas les ordres religieux, et même si je ne suis pas l'érudit qui est capable d'écrire sur les jésuites, beaucoup d'érudits ont écrit. Moi, j'ai écrit sur le chemin de conversion d'Ignace de Loyola, qui s'appelait Inigo, et cet homme qui, à l'époque, s'est converti, a failli mourir, et tout d'un coup avait décidé de servir un roi intemporel, alors que préalablement, il voulait de la gloire avec un roi temporel.
Je me souviens de vous avoir reçu pour un seul livre.
Absolument, oui, vous avez été toujours à l'écoute de mon travail et je remercie Radio Diwa pour ça.
Justement, vous parlez donc de cette, en quelque sorte, ce monopole de la connaissance détenu par l'Église. Aujourd'hui, inversement, étant submergé d'images, de sons, de vérités, de mensonges, comment percevez-vous notre société d'aujourd'hui ?
C'est Hannah Arendt qui disait que, à force d'entendre tout et n'importe quoi, c'est qu'on finit par ne plus croire personne. Et je pense qu'aujourd'hui, entre ce que je ne connais pas très bien, mais enfin, comme j'en entends parler, entre les réseaux, les différentes... tout ce que l'on peut entendre à la radio, à la télévision, les différentes personnes qui parlent, qu'on ne sait plus très bien ce qu'il faut penser, et on ne sait plus ce qu'il faut croire. Avec l'exemple, je ne vais pas prendre la France, je vais la laisser de côté, tranquille, mais elle n'est pas exempte de problèmes. Mais si on écoute Trump, tout ce qu'il veut raconter, Trump, tout ce qu'il veut supprimer d'informations... Là, donc, il ne faudra plus parler d'homosexualité, il ne faut plus parler d'avortement, il ne faut plus parler de noir. Il est en train de supprimer une forme de vérité, parce que la vérité n'existe pas, une forme de vérité, mais une partie de l'humanité américaine ne doit plus exister. On ne sait plus. Et les Américains, ils le croient. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait plus. Les Américains, les Européens aussi, mais je n'ai pas voulu prendre cet exemple. Les Américains ne savent plus ce qui est vrai et ils croient ce que dit Trump. Ça, c'est terrible. Ils n'ont plus leur propre jugement parce que un type comme Must abreuve de ce qu'on appelle, si vous permettez, mauvaise prononciation, les fake news, l'ensemble de l'humanité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, trop d'informations tue l'information. Je vais reprendre une façon de parler qui est commune actuelle. Trop d'informations tue l'information. Et que si on n'essaye pas, sur un sujet que l'on veut connaître, d'essayer de voir de plusieurs versions, d'essayer de comprendre... je vais citer un exemple ancien, comme ça, il n'y aura pas de polémique par rapport à aujourd'hui. Il y a des années et des années, donc il y a eu tout le monde... Enfin, les plus anciens s'en souviennent, donc la fin au Biafra. Donc, et l'Europe a envoyé du lait Nestlé en tube. Et après, il y a un journaliste qui a dit « Ah ah, regardez, on leur envoie du lait Nestlé et ils font du crépi sur leur case. » Tout le monde a cru. « Ah ben, faut arrêter ça. » C'est chose que s'il a oublié, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec du lait Nestlé? Vous voyez ce que c'est, le tube très sucré. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'eau? Voilà, donc c'est le genre de choses, d'informations. Si on ne vérifie pas des choses, aujourd'hui, on est obligé de vérifier avant de dire un mot.
Il y a un site internet pour découvrir cette maison d'édition Le Pas de l'Homme. J'indiquerai l'adresse sur la page de l'émission. Et puis, Philippe Lémonnier, je vous remercie beaucoup d'être venu sur Air du Bois pour nous annoncer donc cette exposition à la librairie Mosaïque.
Qui te remercie, qui remercie Radio du Bois une fois de plus
d'avoir
fait l'écho.
Qui dure combien de temps?
De mon travail. Oh, elle dure un mois. Je pense que c'est jusqu'au 26. Je crois que Mosaïque a un succès dans ses livres, mais également dans ses expositions. Je crois qu'il y a un programme. Donc voilà. Mais je suis très content. Ça a été un peu au pied levé que ça s'est fait. Et je suis très content d'avoir pu exposer un travail que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de mots pour ceux qui regardent. Yeah. Mais pour les regardeurs de l'exposition, j'espère apprécieront.
Philippe, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.